Avec le déclin de la pêche artisanale, concurrencée par la pêche industrielle, ses techniques de capture sophistiquées et la compétition entre pays riverains, la Méditerranée subit, comme partout ailleurs, le contre-coup d'une surexploitation de sa faune marine. Malgré l'effort de pêche accru, le tonnage des captures plafonne à 7000 tonnes et la bataille des cours continue de provoquer des scènes de gaspillage. De plus, face à une production forcément limitée, on assiste à une demande croissante des produits de la mer. Ce déséquilibre impose une gestion rationnelle des ressources marines où l'aquaculture doit être partie prenante. Son objectif prioritaire est d'améliorer les rendements de l'aquaculture traditionnelle et il est alors indispensable de maîtriser le cycle biologique des espèces élevées et d'optimiser le rendement des chaînes alimentaires. L'optimisation des chaînes alimentaires met en jeu des techniques sophistiquées, car elle exige un contrôle rigoureux des paramètres physiques, chimiques et biologiques des élevages. L'aquaculture moderne passe par une étape obligatoire de recherche expérimentale. L'île des Ambiers, sur la côte varoise, offre, avec 4 hectares de marais salants désaffectés, un terrain expérimental privilégié. Jadis utilisé pour la conchyliculture, le plan d'eau de la lagune du Brusque est bien renouvelé par les eaux du large, condition idéale pour l'installation d'une station aquacole. Mais la Méditerranée est un milieu oligotrophe et son phytoplancton, premier maillon de la chaîne alimentaire, a une densité beaucoup trop faible pour convenir à des élevages obligatoirement denses. Il est 100 à 150 fois moins fourni que celui des zones d'upwelling océaniques. Son enrichissement est donc primordial, de même que le contrôle de certaines communautés bactériennes, dont le développement a des interactions bénéfiques avec les communautés du phytoplancton. L'optimisation de ces productions primaires et paraprimaires se fait grâce à l'apport de sels minéraux du type phosphate, nitrate et silicate. Une expérience d'enrichissement des eaux de la lagune du Brusque montre que l'écosystème évolue en 4 phases. Dans un premier temps, les diatomées se développent rapidement et, à un degré moindre, la flore microbienne. Quand la concentration en chlorophylle A reste constante, elle est 100 fois plus importante que dans la lagune. La flore bactérienne reste encore à peu près stable. Au bout de 16 jours environ, on assiste à une chute brutale de la concentration chlorophyllienne due au broutage des diatomées par le zooplancton qui prolifère à son tour rapidement. La mortalité des diatomées favorise une prolifération bactérienne. Il est important de souligner que cette technique d'optimisation du milieu marin méditerranéen est peu coûteuse et qu'elle n'altère en rien la diversité naturelle d'algues qui composent son phytoplancton. Ainsi, aux Ambiers, les bassins directement alimentés par l'eau de la lagune sont enrichis en sels minéraux. On y contrôle régulièrement les métabolites, comme l'ammoniac, et leur recyclage. L'analyse des filtres millipores concernant l'eau de la lagune et celle des bassins enrichis montrent leur nette différence de concentration en chlorophylle A. Cette technique d'enrichissement du milieu naturel permet donc de produire un phytoplancton de grande qualité nutritive, tout en respectant sa composition. Elle préserve pour le deuxième maillon de la chaîne trophique le choix naturel des espèces qui convient à son alimentation. On obtient ainsi un excellent fourrage pour le zooplancton, où dominent surtout copépodes et rotifères, qui alimentent à leur tour des larves de poissons, comme celle du loup. Des bassins assurent la prolifération de zooplancton, d'autres sont réservés aux élevages d'huîtres plates, directement plongées dans les cultures phytoplanctoniques, ce qui permet d'améliorer le rendement des gisements de la région. Les palourdes sont également une source économique non négligeable. À 7, le hall d'aquaculture de la station marine et lagunaire a mis en place également des bassins de recyclage et d'enrichissement d'eau de mer. La station contrôle entre autres le cycle complet d'élevage du loup. À l'époque de la ponte, les géniteurs, mâles et femelles, sont transférés dans des bassins de stabulation. L'examen du profil abdominal des femelles permet d'estimer leur degré de maturation sexuelle. Elles sont également mesurées et pesées pour contrôler la ponte. Il est possible en effet de contrôler et de déclencher une ponte au moment souhaité en pratiquant, en période favorable, une injection de gonadotrophine chorionique. Cette hormone stimule les ovocytes parvenus à maturité, dont l'évolution semble se bloquer chez les individus en captivité. 48 heures environ après l'injection, la ponte se déclenche. Une femelle de loup donne en moyenne 180 à 200 000 œufs par kilo de pois vif. La fécondation est assurée par les mâles, placés dans les mêmes bassins. Les œufs fécondés sont pesés et placés à une température constante de 15 à 18 degrés centigrades, condition primordiale à respecter pour toute la suite de leur évolution. Ils sont déversés très délicatement dans des bacs alimentés en eau très pure et réchauffée, où ils effectuent leur développement. Les œufs viables, rassemblés sous la surface de l'eau, sont sphériques et transparents. Ils ont environ 1,15 mm de diamètre et se développent en 4 à 6 jours. L'embryon se forme au pôle inférieur, tandis qu'au pôle opposé, des gouttelettes d'huile assurent la flottabilité. Certains œufs avortent et s'opacifient quand apparaît le futur axe vertébral de la larve. Au bout de 60 heures d'incubation, l'embryon manifeste ses premiers mouvements, tandis que l'œuf et les gouttes d'huile se pigmentent. Il faut 110 heures d'incubation entre 15 et 18 degrés centigrades pour obtenir l'éclosion qui dure plusieurs minutes et que l'on voit ici en accéléré. Protégés des prédateurs, les œufs d'élevage éclosent à 90%, alors qu'en conditions naturelles, ce pourcentage est infime. La larve mesure 3,5 mm de long. Elle alterne des périodes de passivité et des séquences de nage active. À 3 jours, la nage horizontale se précise. À 6 jours, la bouche s'est ouverte, les yeux sont pigmentés. La larve est apte à chasser et doit capturer dans le milieu sa propre nourriture. À 15 jours, elle n'a plus de réserve, mais son tube digestif, replet, témoigne d'une activité de chasse intense. La phase de pré-grossissement des alevins peut être prise en charge par des stations spécialisées, comme celle de la Fondation océanographique Ricard aux Ambiers. Les juvéniles sont toujours manipulés avec de grandes précautions pour éviter les traumatismes physiques, favorisant le développement de mycoses et d'ulcérations. L'alimentation fait également l'objet d'un soin tout particulier. Divers types d'aliments naturels et synthétiques sont ici testés sur des alevins de dorade. Dès qu'ils pèsent 5 à 10 grammes, les alevins peuvent être confiés à des professionnels qui assurent l'étape de grossissement. Elle a lieu dans des cages flottantes ou immergées, à l'abri des tempêtes, et peuvent être installées et contrôlées en plongée. Les pêcheurs sont conscients des avantages de cet aspect artisanal et peu onéreux de l'aquaculture, qui, dans les prochaines années, sera un complément économique indispensable à leur profession. Les installations aquacoles doivent profiter des meilleures conditions naturelles du littoral. En Méditerranée, les zones abritées et bien renouvelées par la mer sont particulièrement favorables.
Ici, sur l'île des Ambiers, jouxtant la lagune, se trouvent des marais salants, désaffectés depuis le début de la guerre mondiale de 1939. Au départ, ces marais salants étaient quasi-abiotiques, occupés uniquement par de la vase noirâtre pestilentielle, une vase réduite. Et pour régénérer ce milieu, nous avons ouvert largement sur la lagune grâce à la mise en place de buses en béton qui permettent l'entrée des eaux de la lagune dans les marais salants. Ainsi, 7 mois après l'aménagement, un milieu vivant s'est reconstitué. Ce milieu se manifeste par la présence d'une pelouse de phanérogames marines, les rupias, qui couvrent à peu près toute la parcelle et qui est le refuge de très nombreux alevins de mulets qui viennent se nourrir dans ces herbiers. Et puis, sur le fond, s'est développée toute une faune benthique caractéristique des lagunes sablo-vaseuses. Et nous voyons ici, en particulier, des petits monticules qui sont édifiés par des vers qui fouissent dans la vase. Les coquillages bivalves se développent dans la parcelle, sur le sédiment, et dans la pelouse de Rupia cirrhosa. Ils sont très appréciés par certains poissons, comme par exemple par les dorades qui en sont friandes. Et par ailleurs, ils nous servent également à effectuer le contrôle de la qualité du milieu. Pour cela, outre les bivalves, nous avons choisi une espèce de coquillage, les monodontes, qui croissent en bordure sur les petits cailloux et que l'on trouve également en grande quantité en bordure de la lagune du Brusque. C'est une espèce indicatrice de pollution et ceci nous permet d'avoir tout au long des saisons une idée de la qualité du milieu en ce qui concerne notamment les concentrations en micropolluants tels les métaux lourds ou les organochlorés qui sont utilisés en agriculture dans la région. Outre les coquillages, les analyses concernent l'eau, les phanérogames, c'est-à-dire les rupias, et le sédiment. Et en dernier ressort, nous analysons également les poissons élevés dans les bassins. Le milieu a été suivi pendant un cycle annuel et au bout d'un an, un bilan a porté sur la faune benthique, sur les possibilités nutritives de cette faune pour des alevins de poissons, et notamment les alevins de loups, et une pêche totale de la population ichtyologique a été effectuée à la fin de ce cycle annuel. Dans la parcelle aménagée, un chenal plus profond a été creusé et les poissons peuvent ainsi trouver un refuge pour résister aux conditions hivernales particulièrement rigoureuses. Ce chenal a permis par la suite d'installer une cage d'aquaculture afin de compléter notre chaîne alimentaire et de réaliser une petite opération en mode intensif. Et dans cette cage, nous avons installé à la fin de l'hiver une population de jeunes dorades qui avait grossi pendant la période hivernale et dans un bassin aux eaux réchauffées.
Pour sa part, la station pilote du CNEXO à la Deva Sud de Palavas réalise des cycles complets d'élevage depuis le phytoplancton, ici monospécifique, jusqu'à l'obtention de juvéniles, loups, dorades et crevettes japonaises entre autres. Comme dans tout élevage aquacole, les bassins nécessitent hygiène et contrôle permanent pour éviter toute agression bactérienne ou virale. Au pied des cheminées de la centrale de Martigues-Ponteau, Delta Aquaculture utilise directement les eaux de refroidissement de la centrale. Après filtration et contrôle rigoureux de leur qualité chimique et biologique, ces eaux réchauffées alimentent les bassins aménagés sous serre. Ils assurent le cycle complet du développement des espèces proies et des poissons. Exemple de collaboration entre chercheurs, industriels et instances régionales, cette station attire les éleveurs locaux et étrangers qui assurent l'étape finale de grossissement des alevins. À l'étang de Thau, à côté de la pêche traditionnelle aux palourdes, le groupement Les Poissons du Soleil profite des eaux tempérées d'une résurgence sous-marine. Certaines installations modélisent déjà les fermes aquacoles de demain. Dans les Pyrénées-Orientales, à Sals, Méditerranée Pisciculture a conçu une station d'élevage de loups, alimentée par l'eau saumâtre et tempérée d'une résurgence vauclusienne. Dans les Closeries, le conditionnement thermique des bassins est complété par un éclairage zénithal et des tentures de plastique. Cette zone littorale de marécage, propice à l'aménagement de bassins, permet également d'assurer l'étape de grossissement des alevins jusqu'au poids de 300 à 500 grammes. La pêche à l'électrode et aux épuisettes se fait ici à la commande. Ce jour-là, 800 kilos de loup devaient être livrés. Les qualités organoleptiques de ces poissons sont irréprochables. Dans une gestion rationnelle des ressources marines, l'intégration de l'aquaculture s'avère de plus en plus indispensable. Aussi faut-il protéger et réserver toutes les étendues d'eau propices, le littoral abrité, tout comme les étangs et les marais. Les projets et programmes d'épuration de la Méditerranée laisse espérer que ce spectacle désolant est appelé à disparaître et que l'on verra bientôt renaître la flore et la faune de ces fonds pollués avant qu'ils ne soient condamnés à mourir. L'épuration totale des eaux usées est la clé d'une réussite de l'aquaculture en Méditerranée, mer semi-fermée dont le renouvellement global ne se fait qu'en 90 ans. L'épuration, en effet, est la condition obligatoire pour réensemencer en alevin le milieu marin, contribuer ainsi au renouveau de la pêche et mieux aider à vivre cette Méditerranée à qui l'on a tant pris et si peu rendue.